Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle affaire. J'espère que vous avez apprécié la précédente consacrée aux gangs des postiches. Aujourd'hui, nous remontons le temps. Guillotiné en janvier 1870, jugé coupable du meurtre des 8 membres d'une même famille. Crime également connu sous le nom de Massacre de Pantin. Une affaire pleine de rebondissements et de suspense qui reste l'une des affaires les plus sensationnelles du Second Empire. Jean-Baptiste Troppmann, jeune mécanicien, sera jugé coupable. Il est jeune, sauvage, énigmatique, populaire. La France a adoré le haïr et les Parisiens se sont passionnés pour ses crimes. Il semble avoir dévoré le fruit de l'arbre de vie sans avoir jamais touché à ceux de l'arbre de la connaissance qui apprend aux hommes à distinguer le bien du mal. Troppmann, le bien nommé. L'homme en trop ? L'homme limite, l'homme frontière, comme l'Alsace, son pays natal, est une région frontalière. L'homme qui dépasse l'humanité, la déborde, la trahit, la prend par surprise, la méprise peut-être ? On ne sait pas trop s'il est au-dessous, au-dessus, en deçà du grand troupeau humain. Où se situe-t-il ? Incarne-t-il la figure du super mal agressif dont certains scientifiques ont pu expliquer la folie meurtrière par la présence de son code génétique d'un chromosome Y en plus, c'est-à-dire en trop? Son crime est immense par le nombre des victimes qu'il comptabilise. Et fascinant car ses mobiles restent troubles. Il hante à ce point la mémoire populaire que longtemps après les faits, on a vu des Troppmann partout. En Bourgogne, en Normandie, à Berlin. Troppmann devient la référence de l'horreur, le comble de l'abjection, le générique du crime dont on se dit qu'il est impossible après cela d'en repousser les bornes. Troppmann a pourtant un joli prénom, choisi par son papa ou sa maman dans un rêve, une illusion d'amour. Jean-Baptiste, comme l'homme devenu saint à qui l'on trancha la tête. Un avant-goût de ce qui attendait notre icône du crime. À cause de lui, la ville de Pantin est devenue un lieu de pèlerinage et le lieu de naissance symbolique du mythe de la banlieue criminelle. En 1850, Paris compte 1 million d'habitants contre seulement 650 000 50 ans plus tôt. Le baron Haussmann a élargi et modernisé la ville, qui attire vers son centre la bourgeoisie conquérante du Second Empire, reléguant à ses marges les classes laborieuses dont l'imaginaire social et politique se méfie, comme si les pauvres étaient fatalement dangereux. Jean-Baptiste Troppmann sera guillotiné à l'âge de 20 ans, devant une foule déchaînée. Qui, de l'assassin ou de la foule friande du spectacle de la mort et venant contempler le supplice comme une représentation de théâtre ou une revue de cabaret le plus monstrueux ? En évoquant ces milliers de curieux massés devant la prison de la Roquette, ce petit matin d'hiver, mélange de noceurs, de badauds, d'ivrognes, de vengeurs et de soldats, l'écrivain russe Ivan Turgenev, qui assista à l'exécution, y vit... La puissance brutale d'une force de la nature qui tantôt s'apaise comme si elle était couchée et ramassée et tantôt grandit, s'enfle et gronde comme si elle était prête à tout déchirer. La vie de celui qu'on appellera le massacreur de Pantin est l'histoire d'un jeune mécanicien né à Brunstatt dans le Haut-Rhin en 1849. Un cœur cupide et une tête froide qui rêvait d'Amérique et ne la vit jamais. Homme de petite taille, 1,62 m selon la fiche signalétique des archives de la police nationale, il a le front large, des lèvres lipues qui couvrent à peine les dents saillantes, une peau rose d'adolescent, des petits yeux noirs bien enfoncés dans leurs orbites. Cesare Lombroso, le célèbre criminologue de l'époque, l'inventeur du concept du criminel né, qui s'applique à toute personne ayant le crime dans les gènes, le décrit ainsi.
La hauteur du front explique ses plans et ses calculs raffinés. La base de la physionomie révèle plus ou moins leur férocité, vous comprenez ?
L'alliance de l'intelligence et de la férocité. N'est-ce pas là l'une des définitions récurrentes du monstre ? Comme beaucoup d'adolescents, le jeune Jean-Baptiste rêve d'échapper à un destin écrit à l'avance par sa famille. Son père, Joseph Troppmann, patron de la société Troppmann et Cambly qu'il a créée, est un ingénieur alsacien qui conçoit et produit des machines à filer. Représenter les machines paternelles et les vendre dans les usines de l'Est, du Nord et de Paris, est-ce une programmation enviable ?
L'histoire, c'est la passion des fils qui cherchent à comprendre les pères,
disait le réalisateur italien Pier Paolo Pasolini. Il y a de multiples façons de comprendre son père. Mettre ses pas dans les siens, faire un pas de côté, prendre le large et disparaître. Ou, pour certains, le faire disparaître. En 1868, après avoir fait ses classes dans l'atelier familial, Jean-Baptiste monte à Paris pour vendre les machines et s'installe à Pantin, aux quatre chemins, loin du ballon de Guebwiller, de son Alsace natale. Il rêve sans doute à d'autres horizons que ceux monotones de la plaine d'Aubervilliers. Il aurait déclaré un jour vouloir faire
« quelque chose qui étonnera le monde, voilà !»
En 1868, son premier contrat en poche, il poursuit sa route de parfait petit représentant commercial jusqu'à Roubaix. Là, il rencontre celui qui lui a passé commande pour équiper son atelier, un certain Jean King, patron d'une filature prospère originaire comme lui de Guebwiller. Nos deux cigognes deviennent amis et projettent bientôt de s'associer. Comment et à partir de quand un jeune homme, que tout destinait à une vie sans histoire, laisse-t-il germer en lui la graine de l'assassin ? Sont-ce les lectures relatant des faits divers criminels dont il se repassait qui façonnèrent son imagination ? D'où lui est venue cette passion pour la chimie et dans quel but a-t-il installé chez lui un petit laboratoire ? La réponse se trouve dans la suite de l'histoire et le récit de ses crimes. Nous sommes en août 1869. Les conditions de l'association de King et de Troppmann ont été bien définies. Le second devra apporter une mise de fonds qu'il dit pouvoir obtenir en persuadant son père, le vieux Troppmann, de leur céder ses brevets afin qu'ils puissent les exploiter à l'étranger. L'erreur de King est probablement d'avoir voulu faire grossir un peu vite sa fortune sans regarder à deux fois à qui il confiait ses espérances. On peut imaginer que l'air bonhomme et le fort accent alsacien de Troppmann ont endormi sa méfiance d'entrepreneur. En fait, King veut se faire un peu d'argent supplémentaire avant d'aller se retirer dans son pays natal. Troppmann se propose d'aller lui dénicher une propriété en Alsace en vue de cette retraite. Et c'est lors d'un voyage là-bas que son associé passe à l'acte. Dans le cadre de leur nouvelle association, King devait apporter ce jour-là 5 500 francs d'argent liquide. En attendant de vérifier la somme, Jean-Baptiste propose à son ami de faire un peu de tourisme. Ils doivent aller visiter une fabrique de fausses monnaies planquée dans la montagne d'Ufholz. Au cours de leur ascension, Troppmann fait boire à King une décoction d'acide prussique, élaborée avec amour dans son petit labo. L'acide prussique, vous le trouvez partout dans la nature, dans les noyaux de pêche, les amandes, les nèfles, les lauriers cerises ou le sureau yèble. Mais Mère Nature étant moins criminelle que l'homme, le poison n'y existe qu'en dose infinitésimale, laissant le soin à l'homme de l'extraire et de le transformer chimiquement en poison mortel. King meurt quelques minutes après d'agonie. Dieu sait ce qu'il a pensé en voyant le visage impassible de son compagnon tandis qu'il se tordait de douleur. Troppmann récupère ses papiers d'identité et cache le cadavre dans la montagne. Puis il redescend, non sans apprécier la beauté des paysages en ce bel été finissant. Là où il déchante, c'est quand il s'aperçoit que son ami n'a pas sur lui la somme d'argent qu'il devait apporter. Le butin est mince. 212 francs. La carte d'identité de sa victime, une montre en or et deux chèques en lieu et place des 5500 francs promis. King avait sûrement jugé imprudent de voyager avec du liquide sur lui. Qu'importe. C'est un simple contretemps. Tropman a écrit à l'épouse de la victime, prétendument sous la dictée du mari dont il explique qu'il s'est blessé à la main. Il a pris de bien vouloir encaisser les deux chèques qui lui retournent et d'expédier la somme à la poste de Guebwiller. Confiante, l'épouse s'exécute, il ne faut pas déplaire à l'associé de son cher mari. Mais le jeune scribe, qui fait parler les morts, n'a pas prévu que son âge l'empêcherait de retirer l'argent. Et la carte d'identité de King ne lui est d'aucune utilité. Trotman a 20 ans, la différence d'âge est trop grande. Du coup, il renonce à solliciter à nouveau madame pour ne pas attirer ses soupçons et s'attaque au fils, Gustave, âgé de 16 ans, en le priant d'aller à son tour chercher les espèces à la poste de Guebwiller, puis de les lui apporter à Pantin. Gustave y retrouvera son père, censé, selon Tropman, et toujours dans le cadre de leur projet commun, s'être installé provisoirement dans un pied-à-terre près de son cher Jean-Baptiste. Le facteur sonnant toujours deux fois, faute de procuration, Gustave n'est pas autorisé à retirer l'argent escompté. Furieux, il prend le train pour Paris, comme prévu, afin de rejoindre son père. Tropman, dépité, lui aussi, l'attend à la gare. Le pauvre enfant n'aura pas vu grand-chose de la beauté de la capitale. Après avoir, à la demande de Trotman, envoyé un télégramme demandant au reste de la famille de le rejoindre, son père et lui à Pantin, Gustave tombe sous la lame de Jean-Baptiste. Un coup de couteau dans le cou, il voit l'enterré à la sauvette dans un champ près de la gare de Pantin. L'engrenage est enclenché, il va conduire au massacre.
J'ai tué King pour m'emparer de l'argent qui m'avait dit avoir chez son banquier. C'est une nécessité pour moi de tuer les autres membres de la famille afin de supprimer tous les témoins. Vous comprenez, c'est comme ça.
Expliquera Tropman dans un premier temps avant de se disculper en s'inventant des complices. Madame King et sa progéniture au complet, excepté le plus petit resté chez sa nourrice, arrivent donc de Roubaix à la gare du Nord. La mort est au rendez-vous, car ce n'est pas Jean King qui attend sur le quai, mais Jean-Baptiste. Et le baptême qu'il leur réserve sera celui du couteau. Sous prétexte de leur faire retrouver leur mari et père tant attendu, l'imposteur fait grimper la couvée dans une voiture de louage qui part en pleine nuit pour Pantin. L'endroit est désert. Tropman peut poursuivre son programme macabre. Hortense, la mère, est méticuleusement poignardée d'une trentaine de coups de couteau. Puis, exhaustif et consciencieux dans l'horreur, Tropman égorge les plus jeunes, étrangle les grands, achève ce petit monde à coups de pioche et enterre le tout. L'enquête démontrera que certains d'entre eux étaient encore vivants quand le fossoyeur a commencé son travail. À cette époque, au milieu du 19e siècle, la ville de Pantin est réputée pour son bon air. On est à deux pas de Paris, près de la porte de la Villette. Il y a encore des champs, des chemins de promenade, des arbustes fruitiers. Petits paysans et maraîchers vivent en bon voisinage avec les entrepôts et les premières usines qui fleurissent dans la plaine d'Aubervilliers. La vie est douce à Pantin, mais le 20 septembre 1869, la luzerne dégorge de sang. Dans une jachère fraîchement labourée, le cultivateur Jean Langlois tombe sur une main surgie de la terre. Ce laboureur du lieu-dit chemin vert n'a pas vocation à en exhumer les corps. Alerté, la police accourt et fait une moisson abondante et inattendue. Dans le champ reposent une femme et 5 enfants. Une fillette de 2 ans, 4 garçons de 8, 10, 13 et 15 ans. Marie, Alfred, Henri, Achille, Émile, Hortense. Ils sont tous là. Réunis dans le sang, futur engrais à luzerne, ou au cas où on ne les aurait pas découverts. Mais la nature fait rarement le sale boulot à la place de l'homme. Arthur Rimbaud a écrit « Le Dormeur du Val » l'année même où Trotman fut exécuté. La famille Kink n'eut pas un sommeil si paisible, la nuque baignant dans les frais cressons bleus et les pieds dans les glaïeuls. Un bout de terre plus loin, les agents de police mirent à jour couteau et pioche. Le massacre de Pantin a fait la fortune des patrons de presse, le bonheur des éditorialistes et la gloire des feuilletonistes du Figaro, du Petit Journal, du Gaulois ou de l'Illustration. L'affaire Trotman fut l'un des exemples les plus brillants d'exploitation par la grande presse d'un fait divers criminel. Après le massacre de Pantin, Trotman cherche à fuir, à embarquer pour l'Amérique. Mais au Havre, lors d'un contrôle de routine dans un débit de boisson, son comportement tendu et nerveux éveille l'attention. L'affaire a fait beaucoup de bruit et les gendarmes sont en alerte. On l'arrête, on le fouille et l'on trouve sur lui les papiers d'identité du jeune Gustave Kink, sans compter certains objets dérobés à Madame Kink et aux enfants aînés. Le piège se referme sur l'imposteur cupide, cruel et assez imprudent pour se promener avec tant de preuves accablantes. À la morgue de Paris, confronté au cadavre, il avoue ses crimes, révèle qu'il a assassiné le père, qui sera exhumé dans les ruines du château fort d'Urenfluch à Ulfholz, dans le Haut-Rhin. Dans la famille Kink, le tueur a éliminé le père, puis le fils. Au tour d'après, il a assassiné la mère, la fille et les 4 derniers fils. Pourtant, en prison, il reviendra sur ses aveux et chargera des prétendus complices, lâchant ainsi les journalistes sur de nouvelles pistes dans leur quête de mobile du crime. Gang de faux monnayeurs, complot prussien, relations antiphysiques, comme on disait à l'époque pour évoquer une éventuelle relation homosexuelle entre Jean Kink et lui. Toutes tomberont les unes après les autres, en particulier le jour où un garçon boucher découvrira le corps de Gustave dont Trotman disait qu'il était son complice. Après un procès de 5 jours où les bonnes places se monnaient très cher, Jean-Baptiste Trotman est condamné à mort.
On sait qu'il est condamné à mort après qu'on leur a lu le jugement, ou bien tombe dans une immobilité absolue, comme s'il mourait ou se décomposait dans l'heure, ou bien font les bravaches, ou bien sont plongés dans le désespoir, pleurent, tremblent, demandent de grâce. Trotman n'appartient à aucune de ces 3 catégories.
Note Turgenev dans l'exécution de Trotman. Par un concours de circonstances, l'écrivain russe s'est retrouvé avec Antoine Claude, le chef de la sûreté, dans la cellule du condamné, une demi-heure avant que le couperet ne s'abatte. Il était là quand on a annoncé à l'assassin que son recours en grâce avait été rejeté et que l'heure de la réparation pour lui était arrivée. Il n'avait pas peur et semblait calme. Mais à ce moment, cet homme de 20 ans en paraissait au moins 50. On lui ôta sa camisole et il enfila une chemise propre. Cette apparente sérénité stupéfia Turgenev et provoqua en lui une sorte de dégoût. Où était l'homme dans cet homme si placide comme dénué de sentiments? On lui tailla les cheveux, on découpa le col de sa chemise pendant que le prêtre lui récitait les prières. À 7h du matin, les portes de la prison de la Roquette s'ouvrirent devant une foule qui avait attendu toute la nuit dans le froid glacial du mois de janvier. Antoine Claude fut choqué par la présence de la populace. Où que l'on regardait, ça chantait et ça trinquait, et jusque dans les salons du directeur de la prison. Ses cris, ses hurlements joyeux, Trotman ne les avait pas entendus, il dormait à poing fermé. Porté par le mugissement des badauds, il marcha droit vers l'ombre géante de l'échafaud. Il gravit les 10 marches et les aides du bourreau se jetèrent sur lui pour le faire basculer en avant. Là, brusquement, il se débattit. Avant que le couperet ne tombe sur son cou, il tourna la tête et mordit le bourreau à la main. « Aïe, aïe !»
Sale grenouille ! Ah ! Sale grenouille !
Sale grenouille. Drôle d'insulte pour un homme qui relevait plus du fauve que du batracien. L'encre et le sang ayant toujours fait bon ménage, le jour de l'exécution, le petit journal tira à 600 000 exemplaires. Sous le Second Empire, il n'y avait plus qu'un bourreau par cour d'appel. Pendant la Révolution française, chaque département avait le sien. En décembre 1870, 11 mois après la décapitation de l'Alsacien, un décret en réduisit encore le nombre. Il n'était plus que trois, un pour la France continentale, l'autre pour la Corse et le dernier pour l'Algérie. La révolte féroce des Trotman, des Napoléon, des Papavoine, des Byron, des Victor Noir, des Charlotte Corday sera contenue à distance de mon regard sévère. Le Tréhamon a raison. La même démesure, la terrible Ibris grecque, divinité et fille de la nuit et de l'Erebe qui pousse l'homme à sortir de ses gonds, à outrepasser ses limites, peut animer un empereur, un ogre, un poète romantique et une jeune vengeresse de la petite noblesse. C'était Histoire Nocturne. Sachez que vous pouvez retrouver toutes ces affaires dans Paris, capitale du crime, de Frédéric Diefenthal et Paul-Henri Monet aux éditions Livres de Poche. Je vous dis à très vite pour de nouveaux crimes célèbres. Bye bye.